Les colporteurs ont arpenté les campagnes françaises pendant des siècles et ont donc traversé les villages de Provence. Et c'est dans leur pas que Jean Mouly, architecte, ingénieur et enseignant, évoque des moments de l'histoire de France. Et nous écoutons aujourd'hui la première partie, la suite jeudi prochain.
Chaque paysage, puisque j'adore le paysage de la France, comme tout le monde, je pense que tous les paysages, ça parle. Et notamment, puisqu'on va parler des colporteurs, c'est des gens qui traversent les paysages, traversant les paysages, c'est de la géographie, de l'histoire, c'est de l'économie, c'est de la sociologie, puisqu'on rencontre les gens dans les villages, c'est, j'allais dire, du folklore aussi. Donc, c'est une image qui m'a toujours passionné, puis que le Covid actuel réactualise, puisque les gens étant isolés, de temps en temps, on va leur porter à manger, on essaie de casser leur isolement, et ça rappelle un peu ce qu'était les colporteurs d'il y a quelques siècles.
C'était un des premiers liens sociaux, finalement ?
Oui, ça a été un des premiers liens sociaux. Pourquoi ? Parce que pendant des siècles, on l'oublie, la France n'avait pas de route. La première route ici dans la région, c'est 1867. Donc, il n'y avait que des vieux chemins. Les gens vivaient donc complètement en autarcie, ce qui explique pourquoi la France avait un tel retard économique par rapport à l'Angleterre, par exemple, au 18e. Et vivant en autarcie, les gens se suffisaient à eux-mêmes. Ils étaient très pauvres en même temps. Surtout, nous, on était une des régions les plus pauvres de France, la plus dépeuplée. Donc, les gens essayaient de vivre avec les petits produits qu'ils produisaient. Ils ne voyaient personne, sauf de temps en temps. Deux, trois passages, et Dieu sait si c'était apprécié. Le passage de quelques artisans, le forgeron, pour faire les arrères. Le pélaillot. Alors en provençal, ça c'est mon nom avéronnais. Hein. En provençal, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est le marchand de peau de lapin qui venait refaire son stock.
Et ça servait à quoi ces peaux de lapin ?
Les peaux de lapin, ça servait effectivement pour des fourrures de bas étage. Et puis récupérer pas mal de vieux papiers, si les gens les balançaient, ce qui était rare, et pour donner aux industries du papier, notamment aux salles où il y avait deux, trois fabriques de papier.
Et donc les colporteurs, évidemment, aussi.
Alors les colporteurs, c'était l'apparition de la fée ou du Père Noël, puisque dans ces villages où on vivait pratiquement avec rien, tout d'un coup, on voyait arriver quelqu'un qui offrait des petits bijoux de pacotille, des livres, des lunettes, des filets, des aiguilles, un harmonica. Bref, toute une série de choses, j'allais dire, qui étaient superflues, mais qui au moins faisaient respirer les gens.
Alors, lorsqu'on parle des colporteurs, quelle période à peu près ?
Les colporteurs, alors ça, je ne sais pas trop s'il en existait au temps gallo-romain, mais en tout cas, dès qu'on a su que les villages se fermaient, notamment à partir du 10e, 11e siècle, et surtout du temps ici où il y a eu les routiers, donc les villages se sont fermés.
Il faut quand même rappeler ce que c'est que les routiers.
Les routiers, c'était une des grandes époques de désolation, les routiers, et ce n'est pas des gens qui conduisent des convois, ce sont des chefs de bande d'une route, c'est l'équivalent d'une compagnie. Et les routiers, ce sont ces soldats qui, de la guerre de Cent Ans, se sont retrouvés au chômage, puisqu'il y a eu la paix de Troyes entre les Anglais et les Français. On a dit aux gens, aux soldats, vous rentrez chez vous. Mais il y avait des Brabançons, il y avait des Basques, il y avait des Roumains. Ils ne savaient rien faire d'autre que faire la guerre, il fallait survivre. Et donc, ils se sont installés dans des points forts et ils ont ruiné un peu la France. Il y a d'ailleurs un film célèbre qui raconte ça, mais japonais, hein, c'est le film de Kurosawa. Les sept samouraïs qui montrent comment un groupe de bandits venait piller les villages. Et les routiers, dans toute la France, en particulier certains, ont été attirés par les richesses d'Avignon. Voici la papauté à Avignon. Donc ils sont descendus en Provence et ils ont brûlé Riez, Esparron, Quinçon.
Quelles années à peu près ?
Ça c'est à peu près 1340-1400. Par exemple, le rempart de Quinçon, puisqu'on a la date précisément, c'est 1419. Pendant ces temps-là, où les gens déjà vivaient pauvrement, avec toutes les guerres qui se passaient autour, les gens se sont repliés.
Et la peste aussi qui était passée ?
Alors, bien sûr, j'ai oublié ça. La peste 1348, quand même, il y a 25 millions d'Européens qui sont morts. Il y a eu aussi la peste de 1720. Mais là, les gens ont fait attention. Ils se sont enfermés avec des barrières de sécurité, décidément comme le Covid. Notamment à Quinçon, il y avait un régiment, le Royal Roussillon, qui est venu pour bloquer les 18 passages sur le Verdon, où les gens ne pouvaient venir qu'avec des billets de santé. Et puis, à une époque épouvantable, où les gens se sont encore plus renfermés, on a refait les fortifications, c'est les guerres de religion. Quand on pense que sur le plateau de Puberclère, entre le duc d'Allemagne et le duc de Pentevest, Il y a eu une bataille, il y a eu 800 morts sur le terrain. Quand on sait qu'une armée, c'était 2000 à 3000 personnes, 800 morts, ça veut dire quelle bataille il y a eu ?
Quelle année ?
Environ, ça devait être vers 1550. Voilà, alors autant de raisons qui fait que déjà, on vivait en pauvreté ici. Il y avait rien que quelques toutes petites récoltes de blé, un peu d'élevage de moutons. Sur les terrasses, les gens élevaient pour vivre un tout petit peu de pommes de terre qui donnaient d'abord aux cochons avant qu'ils apprennent que c'était bien. Des vestes, des lentilles, et les gens vivaient pratiquement qu'avec ça. Il y avait une soupe, la cuisine c'était quoi ? Ben, c'était un foyer, il y avait une toupine, comme la soupe dedans, on mangeait que ça, on mangeait jamais de viande.
Est-ce qu'on avait des impôts ou on devait aussi alors, donner il y avait à un seigneur ?
Il y avait la taille, oui, alors il y avait des impôts, ce qui fait que le seul argent qu'avaient les gens, parce qu'on pensait souvent qu'ils avaient des basses-cours qui les faisaient vivre, ben non, ces basses-cours, ils allaient les rares fois où ils allaient au marché, ils vendaient et avec ça, ils payaient les impôts, qu'on appelle la taille. C'était bien comme moralité avec les pauvres qui payaient les riches. Tous les gens qui avaient une terre qui était considérée comme riche, les gens ne payaient pas. Donc les impôts, c'était que les pauvres. Ce qui fait que tout cet alourdissement de l'argent des guerres, de l'argent de la taille, de la pauvreté des sols, a fait que les gens vivaient misérablement dans des tout petits villages. Et pour revenir au colporteur, c'est là où il y avait tout d'un coup quelque chose qui arrivait.
Si on détaille un peu les différents types à la fois de colporteurs et de marchandises.
Alors, colporteur, si on revient toujours à l'étymologie, c'est quelqu'un qui porte au col. Tout le monde qui a quelque chose en bandoulière, à la limite les écoliers qui vont à l'école, sont des petits colporteurs, le facteur aussi. En fait, on a réservé ce terme à tous ces gens qui arpentaient la campagne et qui allaient effectivement dans les villages porter un certain nombre de choses. Alors, en fait, si je schématise, et pour rester dans notre région, ou c'est pareil un peu dans des régions de France, mais restons ici, il y a trois types de colporteurs. Il y a le colporteur, l'image la plus folklorique, c'est celui qui débarque dans le village avec une caisse autour du cou, dans lequel on en reparlera. Il y a toute une série de richesses. Le deuxième colporteur, on le voit dans les campagnes qu'à partir du XVIIIe siècle, puisque c'est à ce moment-là qu'on apprend un peu à lire, et ce colporteur-là, il est surtout dans les villes, il est célèbre à travers toute la France, c'est le colporteur des livres bleus. Alors les livres bleus, c'est des petits livres de même format, brochés, qui sont entourés par un papier fort bleu et qui sont édités à trois. Pourquoi trois ? Je ne sais pas du tout, je ne me souviens plus du tout. Mais donc, tous ces livres-là, ils sont quand même vendus 10 millions dans un siècle en France. Donc, on avait des colporteurs de livres qui partaient à travers surtout les villes. Les campagnes ne savaient pas lire, donc comme je disais tout à l'heure, le 18e. Et c'était des livres religieux. Et c'était surtout les almanachs. Pour les paysans, l'almanach est toujours quelque chose d'extraordinaire, puisque ça rythme les saisons, ça rythme le temps, ça donne des références au sein du moment, etc. Donc ça, c'est le deuxième colporteur. Puis le troisième, du petit entrepreneur, c'est-à-dire qu'il va déjà plus loin, il ne va pas de village en village, il va du sud au nord. Il y avait un grand commerce de Barcelonnette aux foires de Beaucaire et retour. Alors un colporteur qui avait des gros ballots, qui avait souvent un mulet, parfois un cheval qui affrontait des routes où il y avait pas mal de dangers, et lui qui faisait de plus grands circuits. Et notamment, on a deux journaux de colporteurs à Ries, Émieux et l'autre, je ne me souviens plus comment il s'appelle, qui racontent ces trajets. Donc trois types de colporteurs, celui du village, moi qui m'intéresse beaucoup, le plus folklorique, le deuxième, le livre, c'est vraiment très particulier, et on pourra parler peut-être de Joseph Émieux, le colporteur avec son cheval, parce qu'il y a une anecdote sur la région de Montmeillan et de Quinçon qui est vraiment très bonne.
Avant d'évoquer ce qui concerne plus particulièrement les marchandises qu'il transportait ou les richesses, le colporteur colportait aussi également des nouvelles.
Ah oui, bah d'où le terme colporté, parce que effectivement, très juste, hein, j'avais oublié de le dire, une des fonctions du colporteur, en fait, du moins ça l'accompagnait, c'est que c'est lui qui propageait les nouvelles de place en place. Entre parenthèses, c'est comme ça que toute une partie de la religion calviniste de Genève est venue en Provence à travers ces gens-là, notamment les Vaudois, et que toute une partie du protestantisme s'est véhiculée à travers ces bibles qui étaient vendues par les colporteurs des livres bleus.
Donc si on détaille un peu, c'est des ballots, des caisses, des...
On élimine le colporteur des livres, parce que c'est le plus simple. Il a sa caisse, il a les livres bleus, voilà. Le colporteur entrepreneur, on passe par la fin avant de revenir à celui qui nous intéresse le plus, lui, il transporte surtout des clous, de la quincaillerie, et surtout les toiles qui sont tissées dans les Alpes et qui sont teintes dans un lieu que beaucoup de gens de la région ne connaissent pas. Il y avait une grande teinturerie célèbre, c'était à Riez, où on avait la teinture des draps qui repartait vers le sud. Et donc, il y avait toute une série de grands ballots de tissus qui partaient vers les foires de Beaucaire.
Il venait d'où, ce tissu ?
Bon, c'est toute la région, puisque toute une partie des toiles qui ont fait la fortune de la France, les 4/5 étaient tissées dans les maisons. Il n'y avait pas d'usine de tissage. C'était tissé dans des maisons et c'était des entrepreneurs généraux qui venaient récupérer. Même au grand XVIIIe siècle, il y avait des dizaines de milliers de gens, par exemple dans le nord de la France, qui tissaient chez eux. Et simplement à partir de fin 18e, 19e, que les industries se sont rassemblées, hein, genre les Vents Robés à Valenciennes, une des plus grandes, parlons des soirées de Lyon et autres. Mais avant, tout était fait, surtout l'hiver, sur des tissages à domicile.
Ici, dans la région, dans les Alpes d'Haute-Provence, on tissait
ce qu'on appelait les cadis, c'était des toiles un peu rudes, mais en même temps, il y avait des toiles légères, je ne sais pas du tout comment elles étaient fabriquées, mais je sais qu'elles partaient jusqu'en Égypte. Et donc, on avait des ballots aux foires du Caire, qui étaient des ballots qui venaient de notre région, et notamment des chapeaux, et qu'on a retrouvés au Levant, en Égypte, et dans notre lieu.
Donc, on en revient à ce... On en a peut-être fini avec ce colporteur à mulet.
Oui, il y aurait toute une histoire, on en parlera peut-être tout à l'heure, parce que il faudrait un livre complet pour raconter comment il voyageait, comment il se fait attaquer par les bandits, comment il se fait voler dans les auberges, et notamment, et mieux en particulier, raconte dans son livre comment il a été attaqué plusieurs fois, notamment du côté, pas très loin, Saint-Martin-de-Brome, attaqué par des bandits de grand chemin, et ça c'était courant, ou voler dans les auberges, ou même, le problème c'est que, et mieux, je ne l'ai pas dit, mais c'était 1790. Donc c'était le temps de la Révolution. Et il s'est retrouvé à Toulon, au moment où Toulon, qui s'était donné aux Anglais, a été repris par les Français, grâce à notamment celui qui commandait l'artillerie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
J'ai une idée, mais...
Bonaparte, voilà, bien sûr. Et donc toute la population de Toulon, Barras en provençal splendide et en même temps épouvantable, Barras a ordonné la fusillade de tous les Toulonnais. Donc Toulon a perdu son nom, c'est venu Port-la-Montagne, et il a fait fusiller tous les Toulonnais. Et alors Émieux s'est retrouvé avec ses ballots dans la fusillade. Et par chance, il connaissait un des gendarmes qui fusillait, qui lui a dit « Allez, pars vite, il y a un trou dans le taillis, pars vite », et ça n'est sorti. Alors ce serait Émieux, mais le gendarme qui était, je crois qu'il était de la région, il devait être du côté de Hops, le gendarme en question, et donc il y a les fameuses fusillades, donc il y avait Fréron, un révolutionnaire ami de Robespierre, mais il y avait Barras, qui est ce personnage incroyable, a traversé la Révolution, le consulat, est devenu d'une richesse extraordinaire, a séduit Joséphine de Beauharnais, Thérèse de Gabarus, et en même temps a exploité des richesses épouvantables. On n'en parle pas beaucoup, c'est dommage, parce qu'il était à côté ici de Fox en Fou, et il y aurait une belle histoire à faire sur le personnage.
Peut-être qu'il n'était peut-être pas très sympathique.
Non, il était, paraît-il, très séduisant et politiquement, disons, absolument épouvantable. Et ça a réussi.
Alors donc, on en vient au colporteur qui apparemment t'intéressait plus.
Le colporteur folklorique, c'est déjà amusant, c'est une belle image des siècles passés. Mais ce qui est plus intéressant ici, c'est qu'on a des images très précises. Notamment, je en prendrai un, moi, qui me plaît beaucoup, c'est vers les années 1910-1920, on trouve le récit dans le village du Poil. Le village du Poil, c'est un village à 1500 mètres d'altitude, dans la région de Mézel, entre Mézel et Majas. Et on a la chance d'avoir les mémoires d'un paysan du village, Albert Cotte. C'est un livre magnifique, extraordinaire, hein, La vie de ceux d'autrefois, ça, édité par Albe de Lumière. Alors ça, c'est le livre qu'il faut avoir ici, hein, dès qu'on s'intéresse à la région. Et Albert Cotte raconte la vie du village. Alors ce village isolé, perdu, qui était un tas de ruines jusqu'à ces dernières années. Et il y avait quand même 250 personnes en 1850. Et quand Albert Cotte, vers 1910-1920, raconte le village, il y avait encore 8 familles, une école et une église. Et donc il a dessiné le plan du village, où il raconte la vie quotidienne et l'arrivée de ce colporteur. Alors il vient d'Italie, il a 60-70 ans. Il arrive, sans prévenir, comme ça va arriver un jour, avec une caisse en bois de 50 kilos. Donc il aura fait 7-8 kilomètres, il allait de ferme en ferme. Alors c'était une caisse, trois tiroirs. Alors le premier tiroir, il y avait tout ce qu'il fallait pour les hommes, les rasoirs, le savon à barbe. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait des peignes. Un deuxième tiroir, c'était surtout pour les dames, donc il y avait des dés à coudre, du fil, il y avait des ganses pour améliorer les robes, il y avait des rubans pour finir les manches. puis il y avait un troisième tiroir, un peu pour tout le monde, des lunettes, des petits jouets, des sifflets, et même un harmonica qui avait fait rêver Albert Cotte. Et donc, ce colporteur venait là une fois par an. Alors il partait le soir, il avait acheté, parce qu'on était trop pauvres pour faire des cadeaux, donc on lui avait vendu un demi-pain et un demi-fromage sec, avec de l'eau qu'il allait boire à la fontaine, et repartait couché dans les granges à 8 ou 10 kilomètres de là. Et dans les granges, on faisait, comme du temps de ma mère, elle me racontait ça dans les fermes aveyronnaises, on recevait les gens dans les granges à une condition, c'est qu'ils déposent chez le fermier les allumettes, pour pas qu'il y ait d'incendie. Donc il repartait de ville en ville. Alors ça, c'était le colporteur. Après, il a disparu un jour, et puis on a vu arriver son fils, et ça, ça a duré jusqu'aux années 1930. Mais le colportage comme ça de village en village a duré à peu près jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. Émieux raconte une anecdote qui est déjà assez piquante. Il allait de Aiguine à Montmélian, alors on verra pourquoi à Montmélian, avec deux ballots de 50 kilos chacun. Alors, je ne sais pas si vous voyez, la Aiguine-Montmélian, 35 kilomètres, avec, comme disait Vauban, un sol bossillé, deux ballots sur le dos et à la main, deux ballots de 50 kilos. J'ai oublié de dire que celui du poil, il avait un ballot de 30 kilos en plus de la caisse dans lequel il avait tous les tissus, pantalons, vestes et autres. Alors pour revenir à Émieux, il avait donc plein de tissus, de ballots, de tissages, deux ballots de 50 kilos. Il va vers Montmélian et la nuit tombe et il se perd. Parce que bien sûr, comme j'ai dit, il n'y a pas de route, il n'y a même pas de grand sentier. Donc Joseph Émieux va se perdre dans les bois. Il a très peur de se faire manger par les loups. Il a réussi à monter dans un arbre. Et autre exploit, il a réussi avec des cordes à faire monter ses ballots dans l'arbre. Et il a passé la nuit dans l'arbre avant le lendemain de s'apercevoir que quand le jour s'est levé, il était à un kilomètre de Montmélian. Si on reprend le contexte, Émieux, il avait deux ballots de 50 kilos. Il les avait pris où? Il a fallu qu'il aille dans une foire. Il a fallu qu'il fasse le plein. Il y avait deux lieux possibles. Il y avait Riez, 2000 personnes, où il y avait des ateliers, et puis Moustier, qui avait des foires très importantes, et il y avait 1900 personnes à Moustier, 1900 habitants, notamment grâce à la faïence qui reprenait à cette époque. La faïence a redémarré, alors qu'elle avait été oubliée, à partir du moment où, vers la fin du règne de Louis XIV, pour payer les derniers combats, Louis XIV a fait passer à la monnaie toute sa vaisselle d'or, vaisselle d'argent. Les courtisans aussi se sont cru obligés de le faire, et donc il a fallu une vaisselle nouvelle, d'où le succès de la faïence de Moustier. Donc il a fait le plein à Riez et à Moustier, et là, il va à Aiguine. Premier problème de géographie, vous traversez le Verdon. Il y avait plusieurs passages du Verdon. D'abord le Verdon, il y avait un tiers de l'année où on pouvait le traverser éventuellement en guet ou à pied. Deux tiers du temps, c'était impossible, dans une partie du temps où c'était des torrents absolument infranchissables. Alors il y avait plusieurs ponts, il y avait le pont Aiguine, il y a eu plus tard le pont Sylvestre et le pont du Galta. Il y avait un bac à Sainte-Croix et aux Salles, et puis il y avait un certain nombre de guets, où les gens se sont d'ailleurs noyés. Il y a un seul pont, les six grands passages sur le Verdon, il y avait un seul pont qui tenait, pour une bonne raison, c'est parce qu'il était engravé dans deux falaises, c'est le pont de Quinçon.